les voies du large. Prenez des embruns. Allez à la rencontre de skippers qui prennent le large. On vous embarque à bord des plus beaux bateaux de course avec des marins d'exception qui vous racontent leurs aventures, leurs défis et partagent avec vous leur passion. Bienvenue sur le podcast du magazine Course au large.
Pour ce premier numéro, nous recevons Armel Cléache qui vient nous parler de son ultime Banque Populaire 11, mis à l'eau il y a tout juste un mois. Allez, visite guidée. Alors, je suis à côté d'Armel Lecléache et surtout de son magnifique Banque Populaire 11. Alors, première petite question, Armel, puisqu'on parle du magazine Course au large, j'imagine que tu suis l'actu. Quel regard tu as d'abord sur cette transat en double qui est assez serrée, hein, visiblement?
Ouais, une transat en double vraiment très intéressante à suivre avec beaucoup de bateaux qui peuvent encore prétendre à la victoire. Rien n'est joué. C'est vrai que. Ils ont eu des conditions assez variées, assez toniques, hein, pour passer les Canaries. On a eu quelques vidéos assez sympas. Et c'est chouette justement d'avoir ces petites stories du large pour voir un peu comment ils vivent leur transat. Et on se rend compte que rien n'est fait, même si à un moment, on pensait que Guyot avait pris un petit peu l'avantage. Hein, Pierre et Thomas, on sent que derrière, ça revient, c'est très serré. Donc moi, je vais voir une arrivée... qui peut peut-être se jouer dans les dernières heures de course. On verra un petit peu entre l'option nord et l'option sud. Il faut attendre un petit peu, mais c'est passionnant. Et moi, je trouve que pour une première transat, ce Figaro 3 montre tout son potentiel. Et en termes de fiabilité notamment, il y a eu très peu de problèmes techniques, pas d'abandon. Donc tant mieux, c'est une réussite.
Quel souvenir tu as d'ailleurs, tiens, de cette transat en double autrefois appelée AG2R, le grand souvenir?
Moi j'ai des super souvenirs, hein. C'est une de mes courses préférées. Je devais y participer l'année dernière, hein. on était inscrit avec Erwan Leroux, malheureusement la course avait été reportée à cause de la crise sanitaire, donc c'est sûr que... Tu veux reprendre ton papier peut-être?
J'ai perdu mon papier, il y a du vent là, on est au cœur de Lorient-la-Vaze, il y a un petit peu de vent là, on est le 25 mai, on a eu un week-end assez tempétueux, merci beaucoup, je récupère mon petit papier. C'est du live. Oui, donc on parlait du souvenir de la Transat AG2R.
Oui, la Transat AG2R, c'est une course qui m'a bien réussi et puis dont je garde de très bons souvenirs. Je l'ai faite trois fois, enfin quatre fois, mais une fois, malheureusement, c'était vite terminé avec Nicolas Troussel. Et puis on était revenu deux ans après, en 2004, et on avait gagné à Saint-Barth le jour de notre anniversaire commun. Et c'est un de mes meilleurs, ça reste un de mes meilleurs souvenirs de voile. Et puis, six ans après, de nouveau une victoire avec Fabien Delahaye en 2010. Donc c'est toujours une course très engagée, mais aussi sportivement très intéressante, parce qu'on a tous les mêmes bateaux, parce qu'on est en double, donc on mène nos Figaro à 100%. Et puis on va quand même à Saint-Barth, donc c'est quand même une destination assez paradisiaque, avec toujours un super accueil. Donc c'est une course, j'aurais bien aimé y participer cette année, mais avec la mise à l'eau du trimaran, c'était un peu compliqué.
On peut pas tout faire, Armel, on peut pas tout faire. Et puis il y a aussi la classe Ocean 50, hein, le Pro Sailing Tour, c'est quand même assez génial ça.
Ouais, c'est super ce qu'ils ont réussi à mettre en place, avec un programme de Grand Prix vraiment très intéressant, une carto très active, et puis on peut suivre en live quasiment les courses. Donc dès le premier Grand Prix, avec des conditions assez engagées, on a vu une belle bagarre avec un équipage de Layton qui a montré un petit peu son potentiel. Et puis derrière, on sent que ça pousse. Et puis moi, je suis content parce que j'ai Erwan Leroux justement, avec qui on devait naviguer l'année dernière, qui a réussi à trouver un nouveau bateau, un nouveau projet et qui se met en place. Et je suis sûr que dans les prochains Grands Prix, il sera dans le match.
Et puis samedi, un grand départ de Lorient. Et ça, c'est aussi l'Ocean Race Europe. C'est quand même assez chouette. C'est aussi un autre format pour les IMOCA. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, on a déjà deux bateaux qui sont en place, qui ont mis à l'eau, qui ont été mis à l'eau il y a quelques jours. Celui de Thomas Ruyant et puis celui de mon copain Nicolas Troussel. Et puis on aperçoit aussi quelques anciens bateaux de la Volvo, ex-Volvo Ocean Race, qui sont aussi à côté. Donc ça commence à se préparer. Non, on va suivre ça de près. Ça va être une course intéressante aussi pour voir un petit peu les comparaisons entre les IMOCA dernière génération et puis ces bateaux de la Volvo et puis un Tour de l'Europe qui sera peut-être une des premières courses, on va dire, avec des escales en Europe après toute cette période compliquée pour les organisateurs de mettre en place des courses avec du public, avec différentes nations. On espère que c'est la première étape vers la sortie de tout ce qu'on a vécu.
Bon, alors là, on va monter à bord de Banque Populaire 11. Juste, dernière petite question sur l'actu. Comment tu suis l'actu, toi, Armel ?
Ah, moi, je suis l'actu sur pas mal de réseaux sociaux, des différentes applications. Donc je, comme beaucoup de marins ou de passionnés de voile, on a plein d'outils disponibles. Je ne vais pas citer de concurrents, mais il y a plein de, il y a plein de choses. Donc je ne suis pas forcément, je vais pas seulement regarder un seul média ou un seul un blog ou un seul site, mais plusieurs sites, comme celui de Course au Large, mais d'autres. Et c'est ça qui permet d'avoir une information très riche.
Une richesse d'informations, exactement. Alors, Banque Populaire 11 qui a été mis à l'eau quasiment un mois jour pour jour, Armel. On va monter à bord juste, tu peux nous le décrire là pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Longueur, largeur, hauteur de mât, décris-nous un peu ton bateau.
Et donc c'est un ultime dernier cri avec des dimensions qui correspondent à ceux de la classe ultime. On est sur 32 mètres de long et 23 mètres de large. Donc un bateau qui pèse environ 16 tonnes. On a un mât qui est à presque 40 mètres au-dessus de l'eau. Donc voilà, c'est un géant des mers. Trois coques, bien sûr, trimaran. Et puis un bateau qui a été construit ici à Lorient pendant près de 2 ans suite à beaucoup d'études, de chantiers. C'est le fruit à la fois d'un gros travail d'énormément de personnes. C'est plus de 150 entreprises du Grand Ouest françaises qui ont travaillé, qui ont œuvré pour fabriquer ce bateau. Et puis nous, on est très heureux de le voir ici à Lorient, de pouvoir le tester depuis un mois et de d'apprendre tout doucement son potentiel et de le prendre en main.
Ouais, c'est joli parce qu'on te voit, tu as des étoiles plein les yeux quand tu regardes ton bateau. Quand tu nous le décris là, on sent que il y a de l'émotion et c'est vraiment chouette. Alors je te suis, Armel. On monte à bord. Alors là, on est sur le grand trampoline de Banque Populaire 11. On se rapproche du pied du mât. Il y a toute une équipe technique qui travaille autour du bateau. Ça, c'est le bateau d'Armel, mais c'est le bateau de tout un team. Faut pas l'oublier.
Ah oui, bien sûr. C'est le bateau du team Banque Populaire. C'est le bateau qui appartient à Banque Populaire, tout simplement. Donc, c'est une équipe de 16 personnes qui travaillent toute l'année avec moi, ici à Lorient, pour préparer et mettre en place nos projets. On a cette année l'objectif d'être au départ de la Transat Jacques Vabre. Mon équipier sera Kevin Escoffier, un des héros un peu malheureux du dernier Vendée Globe, mais qui connaît bien le team Banque Populaire, qui a travaillé pendant presque 10 ans au sein du bureau d'études. Donc oui, c'est un bateau dont on prend soin. On est très fiers de le montrer ici au ponton. On a beaucoup de gens qui passent le voir. Effectivement, souvent les gens sont très admiratifs ou très impressionnés par la taille du bateau. Et puis c'est un bateau sur lequel on a aussi amené pas mal de nouveautés par rapport au précédent. On a toute une partie carénée qui est vraiment importante.
Là tu parles des bras avant, tu me corriges si je dis des bêtises, des bras avant qui sont carénés, comme une aile, en fait ça fait un peu aile d'avion quoi. Hein.
Exactement, on n'a pas forcément inventé cette technologie, mais on s'en est servi pour, comme d'autres bateaux, pour essayer d'optimiser l'écoulement de l'air sur la plateforme. Donc comme nos bateaux vont de plus en plus vite, on navigue maintenant souvent au-dessus de 40 nœuds, on sait que ça a de l'importance pour optimiser l'écoulement de l'air pour la performance, pour la vitesse. Donc on a caréné ses bras avec de la toile tendue. Devant aussi, sur la partie avant du bateau, on a une espèce de toile qui est dressée pour optimiser justement l'écoulement de l'air quasiment de l'étrave de la coque centrale avant jusqu'à l'arrière, avec toute une partie qui vient intégrer à la fois le mât. Le mât est intégré dans un carénage. Et puis derrière aussi la casquette, on ira voir tout à l'heure le cockpit. Donc ça fait un ensemble quasiment uni d'une seule pièce. Et ce qui permet, mis bout à bout, tous ces carénages sur le bateau, ça nous permet d'optimiser la vitesse du bateau. On sait qu'on peut gagner quelques petits pourcentages à certaines allures, donc ce qui n'est pas négligeable pour ces bateaux-là.
Et donc, en fait, il y a toujours dans la tête, forcément, hein, l'ancien ultime, hein, avec lequel bien, il y avait eu, évidemment, quelque chose de dur à avaler, hein, sur la dernière route du Rhum. Donc, tout ça, ça a été des leçons, et ce Banque Populaire 11, eh bien, ça a été... C'est une évolution pour toujours gagner en nœud, pour toujours aussi gagner en ergonomie. Qu'est-ce que tu as cherché en plus aussi pour le bonhomme? Parce que c'est important, tu vas naviguer en solitaire sur ce bateau. Donc c'est aussi des leçons que tu as retenues d'ergonomie, de facilité d'utilisation.
Oui, on a essayé de travailler sur, bien sûr, le retour d'expérience du précédent bateau. Déjà, le point numéro un, le plus important, c'était la sécurité. Ne pas renouveler ce qui est arrivé sur la route du Rhum, c'est-à-dire... Suite à un choc avec un ovni, on a le bras avant qui se situe juste à côté de nous, là, qui a été endommagé, qui a fini par se briser, se casser en deux, ce qui a fait que le bateau a chaviré derrière et donc a été complètement détruit. Donc aujourd'hui, on a une double structure sur ce bras, donc, qui mm-hmm. est complètement différente du précédent bateau. On a aussi intégré dans ce bras de la fibre optique, qui est un élément important sur nos bateaux aujourd'hui, ce qui nous permet de... Déjà en temps réel de suivre un peu les efforts du bateau, comment chaque pièce va être utilisée et de voir un petit peu justement si on atteint des chiffres un peu anormaux ou des pics de valeur. Et puis en cas d'impact, si on renouvelait un petit peu ce qu'on a eu sur la route du Rhum, on aurait des informations rapidement en direct sur le bateau pour nous dire attention, il y a un endroit qui avait été fragilisé. Une première structure qui pourrait éventuellement finir par casser, comme ça a été le cas sur la route du Rhum, mais on a une deuxième structure qui sera là pour maintenir le bateau dans son intégrité et pouvoir ramener à bon port, même après plusieurs jours de course ou plusieurs jours de convoyage, et donc de préserver la sécurité du bateau, mais aussi bien sûr préserver la sécurité des marins à bord et éventuellement, si c'est du solitaire, bien sûr, ma sécurité à moi.
Alors on voit les feuilles là, on va se rapprocher des feuilles, tu m'expliques un petit peu. Ils sont plus grands, non, ces feuilles?
Ah oui, ils sont bien plus grands, ils ont grandi en 3 ans. On a des feuilles qui, en termes d'envergure, sont quasiment deux fois plus grands que les précédents. Donc là, on atteint presque plus de 10 mètres d'envergure, donc c'est des pièces énormes qui ont été construites chez CDK, ici, donc à côté, hein, à quelques mètres du ponton. Ils ont un nouvel outillage qui nous permet de pouvoir fabriquer ces pièces, qui n'était pas le cas sur le précédent bateau. Donc aujourd'hui, on peut fabriquer ces pièces d'une seule partie, d'un seul morceau. Donc c'est une nouvelle technologie et donc on est les premiers à tester ça. Et aujourd'hui, ça répond à nos attentes. Et c'est vrai que ça permet de gagner en performance et surtout en stabilité de vol, ce qui est un petit peu la clé du succès pour ces bateaux. Hein. On sait qu'on peut aller très vite, mais ce qu'il faut pour réussir, c'est d'aller vite longtemps. Ouais. Et donc ces grands foils vont, on l'espère, nous permettre d'obtenir ces résultats. Et donc on a agrandi ces foils de chaque côté, mais aussi sur les safrans. Donc on a 3 safrans. Donc bien sûr un sur chaque flotteur, mais aussi un sur la coque centrale. Ils sont équipés de plans porteurs et donc ces plans porteurs aussi ont grandi en surface. Donc ce qui lui permet d'avoir à l'arrière aussi une partie qui peut soulager le bateau et donc de pouvoir voler un petit peu au-dessus de l'eau à quelques dizaines de centimètres pour pouvoir gagner en performance et gagner en vol, en stabilité de vol.
Et alors qu'est-ce que ça a donné, tu disais tout à l'heure, 4 sorties hein, depuis la mise à l'eau, il y a eu plutôt du vent là, hein, oui. En Baie-de-Lorient, qu'est-ce que ça a donné, dans quelles conditions vous êtes sorti?
Ouais, on a essayé d'y aller bien sûr étape par étape. La première sortie était d'abord une première navigation pour tester les systèmes, pour voir si tout allait bien. Donc on est allé vraiment tranquillement et puis au fur et à mesure de la journée, on a vu que les choses passaient bien. Donc on a commencé un petit peu à aborder les voiles et on a commencé à voler. On s'est rapproché des 40 nœuds assez facilement. Donc on était content, surtout que de voir que le bateau il n'y avait pas de problème particulier, pas de problème majeur. Et puis ensuite, on a fait 2-3 autres sorties. À chaque fois, on apprend, on progresse. Mais on voit que le bateau a vraiment du potentiel. Ça répond à nos attentes et ça, on est vraiment satisfait. Maintenant, on sait que pour aller être performant sur les courses ou les potentiels records qu'on va tenter, il va falloir être gagné en fiabilité. Parce que ces machines, plus elles sont grandes et plus il y a des systèmes embarqués, plus il y a de mécanismes. Et donc, il faut que tout ça, ça se soit bien aligné en termes de fiabilité. Donc, c'est le travail de toute l'équipe et c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, aujourd'hui, on est encore en train de bricoler et on retournera naviguer après-demain à Lorient, voilà, pour continuer à se préparer. On a un programme aussi à suivre de représentation avec Banque Populaire. On va partir à Arcachon premier week-end de juin pour aller montrer le bateau voilà, sur la façade atlantique. Et puis ensuite, on partira en Méditerranée pour une tournée quasiment d'un mois sur différents ports pour voilà, présenter aussi ce bateau, cette machine au grand public, mais aussi surtout aux collaborateurs des différentes banques populaires, parce que c'est un bateau qui voit bien sûr à travers les photos, les vidéos, mais rien de tel que de le voir en réel. C'est toujours mieux.
Ouais, c'est toujours... Et puis ensuite, après, il y aura la préparation de la Jacques Vabre avec Kevin. Donc j'imagine que
ça va venir vite, ça va venir très vite, effectivement. On sait qu'on a un programme très ambitieux parce qu'on est de retour ici fin juillet. Après, le bateau sortira de l'eau pour un petit check. Et puis derrière, on sera vite tout début septembre pour la dernière ligne droite vers la Jacques Vabre. C'est important pour nous d'aller faire ces courses, cette grande course de la saison, parce que ce sera à la fois pour continuer à prendre en main le bateau sur un format en double, qui est quand même déjà un format engagé sur ces bateaux-là, on le sait. Avec Kevin, l'objectif c'est d'aller au bout, de faire le mieux possible, parce qu'on sera, on sera pas les favoris, on n'a pas encore une grosse expérience de ce bateau par rapport à nos concurrents directs. Et puis surtout, c'est nous permettre de nous lancer, on l'espère, dans la meilleure des façons pour la Route du Rhum, qui est l'objectif principal dans ces deux saisons à venir. On veut gagner la Route du Rhum l'année prochaine avec Banque Populaire, donc on sait que ça passe par là, ça passe par terminer des courses, ça passe par fiabiliser le bateau, ça passe par naviguer et le plus possible. Et avec ces bateaux-là, on sait que c'est compliqué et donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration, mais on est tous, on est tous à fond. Allez, on va aller voir.
On va aller voir derrière. Allez, je te suis. Hop, allez hop, je descends du trampoline, je remonte sur le petit trampoline qui entoure eh bien, le cockpit, cette nacelle qui est hyper protectrice, Armel. On sent qu'il y a besoin d'un petit cocon parce que ça va tellement vite que...
Là on sent qu'il y a de l'air, il y a du vent dehors là, encore aujourd'hui. Normalement les conditions vont s'améliorer, on espère un peu plus de soleil, un peu moins de vent dans les prochains jours. Il y a encore du vent, donc là on sent que même le bateau à l'arrêt, il y a du vent, on est voilà, ça... Ça souffle un peu dans la casquette. Et puis, dès qu'on va à l'intérieur, tu vas voir tout de suite, on va être bien protégé.
Allez, on y va. Il y a l'équipage eh bien, qui travaille. Hein. Bonjour. 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 Alors, deux grands moulins à café, un winch central, plusieurs winches à la sortie des drisses. Explique-nous un petit peu toute cette construction du cockpit.
Ouais, alors ici c'est vraiment l'élément principal du bateau en termes de fonctionnement. C'est ici qu'on passe quasiment 95% de notre temps. Tout est centralisé dans ce cockpit. Donc on voit Arnaud là qui est en train de remettre en place l'écoute de grand voile. On avait démonté la baume là pour justement vérifier après cas de navigation que tout allait bien. Et donc on a un winch central qui est là pour l'écoute de grand voile. Et puis devant on a un piano où Jimmy est en train de bricoler un sûrement des winches. Donc on a 4 winches, 2 tribord et 2 à bâbord. Donc 2 gros qui sont pour les voiles d'avant, les voiles où il y a beaucoup de tension dans les écoutes. On peut avoir jusqu'à plus de 10 tonnes. Et puis les petits winches qui sont plus des winches utilitaires.
Et pourquoi c'est barre à roue ?
Alors c'est barre à roue, on est là pour piloter le bateau. Bien sûr, à un moment il faut barrer le bateau. Et donc sur ces grands bateaux de 32 mètres de long, une barre franche, et ça devient un peu compliqué à utiliser, c'est même un peu dur à la main. Donc une barre à roue est plus facile, on est debout, on peut ouvrir, on a deux trappes de chaque côté, on a une qui est ouverte ici.
Ok, ouais, au-dessus en effet de la barre à roue, on peut ouvrir.
Et donc, et pouvoir avoir une vue sur ce qui se passe devant, et puis quand on n'est plus à la barre, soit c'est parce qu'on change de bord, ou c'est parce qu'on est sous pilote automatique, on peut refermer la trappe, et donc être vraiment protégé du vent. C'est vraiment l'importance de ce cockpit, c'est d'éviter d'avoir en permanence ce vent dans la figure, parce que on a le vent qui est dehors, le vent le synoptique, mais aussi le vent qu'on va créer avec la vitesse du bateau. Quand on navigue à 40 nœuds, il faut imaginer qu'on va avoir 40 nœuds de vent apparent plus le vent extérieur, donc on peut avoir 50 nœuds dans la figure, ce qui est vraiment usant. On peut pas, on va pas rester comme ça toute la journée, donc il faut se protéger de ça. Et donc c'est pour ça qu'on a ce cockpit très fermé, très protégé, à la fois du vent, de l'humidité, mais aussi très visuel avec tous ces hublots voilà, qui nous permettent de voir tout ce qui se passe autour.
Ouais, c'est très clair, hein, ça fait véranda. C'est vrai qu'on a une vue partout sur la grand voile, sur ce qui se passe à l'avant. Et en revanche, quand tu sens la tête, tu as des lunettes de ski ou comment ça se passe?
Alors après, devant, on vient intégrer une petite visière là, qui vient connecter sur le poste de barre. Donc ça permet d'avoir ce qu'on appelle un déflecteur un peu, donc éviter d'avoir le vent dans la figure. Et oui, après, bien sûr, il faut se protéger. Si c'est humide, on met une veste de cirée, on peut mettre des lunettes, un masque, un bonnet s'il fait froid. Enfin oui, on s'équipe, bien sûr. Là, on est quand même un peu en extérieur. Mais avec ce petit déflecteur, on a quand même une protection au vent par rapport à la figure.
Bon, et puis alors, il y a l'intérieur, l'abri du marin, là où il y a tous les... Alors, on a des répétiteurs hein, dans ce beau cockpit. Hein, où tu as toutes les informations, Armel, là-dessus. Voilà. Pas besoin de rentrer à l'intérieur finalement. Hein.
Non, bah là, ici on a beaucoup d'informatique, beaucoup d'électronique avec beaucoup de capteurs sur le bateau. Donc on a tous ces écrans qui nous permettent d'avoir tous ces chiffres en permanence. Donc on a des nouveaux écrans Brooks là, qui sont assez faciles, tactiles. On peut choisir des pages. Donc c'est. Voilà. Hop.
Bon, bah, il suffit de le demander.
Non, mais parce que voilà, c'était. Voilà, hop.
Le menu.
Donc voilà, on peut choisir différentes pages.
Jimmy, oui. Il y a Marion qui est là.
Donc c'est assez pratique.
Et là, tu as toutes les tensions également de gréement, etc.
Les réglages des appendices, voilà, sur les recs, de foils, de safran, de dérive, l'enfoncement des foils, l'enfoncement de la dérive, l'enfoncement des safrans. Voilà, tout est accessible. Donc ce qui nous permet, depuis cette zone, hein, comme je disais, centrale, d'avoir toutes les informations et de pouvoir tout faire ici. En fait, finalement, le seul moment où on va aller sortir de cette zone protégée, c'est pour aller mettre en place les voiles d'avant, les Jennakers, ou éventuellement s'occuper de prendre un riz, donc de pouvoir aller mettre le Cunningham au pied de mât. Et finalement, le reste du temps, on revient ici et on manœuvre.
Alors, justement, moi, j'ai une question un peu de néophyte. Hein. Quand on envoie une nouvelle voile ou quand on en panne ou quand on a une grosse manœuvre à faire, qu'est-ce qu'on arrête le bateau complètement ou comment on fait?
Alors on va ralentir le bateau par exemple quand on veut changer de voile d'avant. Donc on va abattre, on va rouler la voile, mais ça se fait déjà sur des IMOCA, hein, ouais. Donc surtout quand on est en équipage réduit, en solitaire, même en équipage normal. Et puis ça prend du temps, hein. Par exemple un virement de bord ou un empannage sur ces bateaux là en solitaire, ça va prendre une demi-heure voire 40 minutes. Donc c'est long, il faut le faire par étapes parce qu'il ne faut pas faire de bêtises. On sait qu'on a beaucoup d'efforts dans toutes les pièces, dans toutes les écoutes. Donc si on fait vite une erreur, et ça peut coûter cher. Ça peut abîmer du matériel et puis on peut aussi galérer à avoir récupéré l'erreur. Donc ça peut être très très long. Donc il faut anticiper. Maintenant, il faut accepter de perdre un peu de terrain, sachant que derrière, avec ces bateaux-là, on va vite réaccélérer. Il n'y a pas de souci.
Ok.
Alors après, on va avoir un premier sas.
Alors là, on...
Là, on est vraiment ici. Là, ici, il n'y a plus d'entrée d'air. On est vraiment dans un premier sas qui est une partie vraiment adaptée pour l'équipage réduit. Donc, un poste de navigation avec un siège qui a été fait mouler sur mon gabarit. Hein, donc, c'est le même siège que j'avais sur le Vendée Globe en 2016 qu'on avait fait pour Banque Populaire 8. Hein. Donc c'est un siège où lequel je peux même m'allonger, enfin dormir, on va dire, être en veille. Mm-hmm. Et puis on a une table à cartes qui peut bouger.
Pivote.
Pivote, voilà. Donc alors là, elle apparaît.
Ouais. Donc elle pivote en fonction de là où tu te disposes.
Exactement. Donc, je peux être ici ou à tribord à bâbord. Donc côté au vent, c'est toujours un peu plus facile.
Donc. Mais est-ce qu'on dort vraiment sur un ultime? Non, quand tu dis, c'est de la veille, c'est de la petite sieste, quoi.
Oui, ce sera de la petite sieste, hein, bien sûr. Il faudra, sur la route du Rhum, ce sera un peu comme une grande étape de Figaro. Hein. On part pour 6-7 jours de traversée. Donc ça veut dire des petites siestes de 20-30 minutes, par-ci, par-là, pour pouvoir quand même récupérer, dormir. Hein. On sait qu'en plus, sur ces bateaux, les manœuvres sont toujours très, très longues, hein, on en a parlé, donc il faut récupérer physiquement, mentalement. Donc il y aura des zones de sieste à programmer, à mettre en place. Donc,
mais ça sera, pardon Armel, ça sera toujours dans ton siège ou non, ça peut être ailleurs?
Ça peut être ailleurs, ça peut être justement, on commence à regarder un peu, là on a sorti des matelas de notre bateau, mais on commence à regarder un petit peu comment on se concentre pour la Jacques Vabre cette année, ouais. Donc comment avec Kevin on va pouvoir se relayer. Alors à deux c'est beaucoup plus facile, on aura toujours quelqu'un qui sera à 100% pour la veille et la gestion du bateau, mais pendant que l'autre se repose, il pourra aller dormir une heure, voire deux heures. Et donc, à voir si on le fait plutôt à l'extérieur de la coque centrale ou donc dans cette zone un peu protégée ou carrément à l'intérieur, pourquoi pas si les conditions sont bonnes.
Ah oui, alors là, il y a l'intérieur de la coque centrale. Donc, on y va. Allez, moi je te suis. Ça y est, échelle. On rentre dans la grotte de carbone. Ouais. Alors attends, je pose mon carnet. Je pose le micro. Allez, je reprends. Oui, en effet. La coque centrale. Il y a quand même un petit hublot de coque.
Un deuxième
dans le fond.
C'est pour la sécurité. Ce sont des hublots qui nous permettent, malheureusement en cas de chavirage, c'est ce qui m'est arrivé sur la route du Rhum notamment, de pouvoir ouvrir par l'extérieur. Donc, il y a des poignées qui sont aussi accessibles par l'extérieur et de rentrer dans la coque centrale et de se mettre en sécurité. Donc quand l'accident est arrivé sur la route du Rhum, c'est par là que je suis rentré. Alors il y avait des conditions un peu dantesques. Et après on referme et on peut déclencher sa balise de détresse donc qui est juste à côté et qui permet effectivement de mettre en place tout le processus de secours. Donc ici on est vraiment dans la partie centrale du bateau, à l'intérieur, c'est tout noir, hein, c'est un endroit où on va aller très peu. C'est surtout pour à la fois toute la maintenance, hein, il y a beaucoup de systèmes de techniques à l'intérieur du bateau qui sont accessibles. Donc on a toute la partie sous les winches, sous la colonne, ouais. La partie hydraulique.
Les vérins, voilà.
On a beaucoup d'hydraulique sur nos bateaux, donc beaucoup de vérins. Mmh. On a toute une partie électronique qui est derrière cette petite placard, voilà. Donc on a, je sais pas si tu peux apercevoir ici sur le côté, ça clignote, voilà, il y a plein d'électronique.
Ah oui, en effet, ouais, on voit. Il y a du rouge, du vert, ça clignote de partout. Voilà. Ouais.
Une mini centrale de la NASA. On a le moteur, donc qui est l'élément à la fois obligatoire pour les courses, donc ce qui nous permet de sortir du port et de rentrer au port. Et puis en termes de recharger aussi les batteries, en plus de ce système comme l'éolien notamment, dont on se sert beaucoup avec ces bateaux-là. Et puis on est en train de mettre en place, donc tu vois, il y a des scotchs en place, t'as des supports, on va mettre des bannettes là. Il va y avoir trois bannettes.
Ah, d'accord, quand même.
Donc pour quand on va être en équipage, on va naviguer à 6. Peut-être 7.
C'est serré, hein. On donc, imagine 7 personnes là.
On ne va jamais être à 6, à 7 en dormir en même temps, bien sûr. On aura toujours 3 qui seront hors quart, donc ils pourront se reposer, donc on aura 3 manettes. On est en train d'installer même une petite cuisine démontable pour partir en Méditerranée, donc qui va nous permettre de pouvoir, quand l'équipage, la partie hors quart va pouvoir descendre à l'intérieur, se faire son petit repas chaud, se changer, aller dormir, etc. Et puis on alternera comme ça en fonction des quarts. Et puis à l'arrière, on aura même une zone tout au fond qui sera pour notre médiaman, donc qui sera là aussi, essentiellement pour faire les images et envoyer toutes ces belles vidéos photos pour tout le public, pour tous ceux qui suivent nos aventures. Il aura son petit matelas au fond. Et il sera tranquille et pourra donc travailler sereinement.
Et sur un ultime, les voiles sont toujours sur le pont. Je veux dire, il n'y a pas comme en Imoca où on va ranger ses voiles à l'avant. C'est radicalement différent, quoi. Les voiles restent sur le pont.
Ouais, c'est ça. On n'a pas la problématique du matossage, hein, parce que nos bateaux avec les flotteurs, on n'a pas la même contrainte de gîte. Donc effectivement, nous. On va juste déplacer les voiles sur le filet, donc c'est des voiles qui sont très lourdes, hein. Un Jane Laker ça pèse plus de 100-110 kg, donc Ça se manie, voilà, en solitaire notamment, ça prend un peu de temps à mettre en place. Mais c'est vrai qu'on ne va pas les rentrer à l'intérieur, ce ne sera pas du tout adapté. Et puis, il n'y a aucun intérêt à le faire. On n'a pas les mêmes problématiques qu'en IMOCA de ce côté-là.
Bon, bah dis donc, en tout cas, c'est charmant, ce petit coin de carbone. Mais c'est intéressant, en effet, c'est très intéressant de voir cette différence, hein, monocoque, multicoque, rien à voir. Et on retourne sur le pont. Le siège baquet, et puis dans cette nacelle en fait où tout se passe. Hein, tiens d'ailleurs Armel, la configuration, elle a été pensée comment? Elle a été pensée selon ta taille, j'imagine, selon que tu navigues en solitaire, en équipage, comment ça se passe?
Oui, alors c'est vrai que l'ergonomie du cockpit a été pensée avec toute l'équipe. On a d'abord notre expérience de différents bateaux. On avait le précédent, hein, Banque Populaire 9. On a aussi l'expérience d'un grand bateau qu'avait Banque Populaire il y a quelques années. C'était actuellement maintenant le Spindrift, hein, un bateau qui faisait 40 mètres où il naviguait à 14 à bord. Donc toute cette expérience cumulée nous a fait réfléchir à ce cockpit, à la fois adapté pour de l'équipage à 6. Donc on peut manœuvrer à 6 sur un tour du monde, hein, un record trophée Jules Verne par exemple, mais aussi en solitaire. Donc moi ce que je voulais notamment, c'était pour voir, comme on passe beaucoup de temps à tourner ces moulins à café, c'est principalement l'effort physique le plus important sur ces bateaux, hein, 90% du temps physiquement c'est tourner les colonnes. Moi je voulais vraiment avoir un emplacement adapté pour être bien en place et effectivement, avoir une hauteur sous la...
Tu mesures combien, toi?
Moi, je mesure 1,88 m. Donc, tu vois...
Ah, quand même.
Quand je suis juste ici, on est juste bien.
Ouais. C'est limite, là.
Et donc, je ne voulais pas avoir la tête penchée ou comme en IMOCA, où on peut accepter d'avoir de temps en temps un peu le dos un peu courbé ou la tête un peu sur le côté pour manœuvrer, parce que les manœuvres sont un peu plus courtes sur ces IMOCA. Là, je parlais tout à l'heure de 30-40 minutes. Quand on change un Jennaker en ultime, en solitaire, c'est presque une heure de manœuvre. Donc c'est important d'être efficace, d'avoir justement un maximum de potentiel à la colonne. Et donc pour ça, c'était pour moi important d'être bien en place. Donc d'accepter d'avoir une casquette assez haute. Et donc pour ça, par rapport au carénage, par rapport à l'écoulement de l'air, on a accepté de décaisser la coque centrale. Voilà. Okay. C'est pour ça qu'à l'intérieur, on a un peu moins, un peu moins de hauteur. Mais comme je disais tout à l'heure, la coque centrale, on y va quasiment jamais. Donc, on préférait avoir un peu plus de hauteur ici et un peu moins à l'intérieur.
Bon, et super. Et alors, sous le carénage, là, j'aperçois qu'est-ce qu'il y a. Ça, ce sont des... Explique-moi, Armel, qu'est-ce qu'il y a sous le bras arrière? Il y a un...
Alors on voit les vérins, deux vérins de chaque côté qui sont connectés au gréement, donc en fait au banc tribord et bâbord, parce que sur ces bateaux, contrairement aux IMOCA par exemple, on a la capacité de pouvoir basculer le mât, donc utiliser justement la bascule du mât pour pouvoir être un peu plus performant, c'est-à-dire qu'on va amener tout le poids du mât au vent et puis surtout d'avoir un plan de voilure un peu plus vertical par rapport à la surface de l'eau, donc d'avoir un meilleur profil. Donc on bascule le mât quasiment de 6 degrés d'un bord à l'autre. Donc ça se fait par des vérins. Donc on voit justement ces tiges de vérins qui sont rentrées ou sorties d'un côté à l'autre. Bien sûr, elles sont connectées l'une et l'autre ensemble. Et puis juste au-dessus, ce sont des tubes qui relient les différents safrans ensemble et qui vont être reliés aux barres, à roues, pour pouvoir, quand on tourne le bateau, que les trois safrans puissent pivoter bien sûr ensemble.
Bon, super. Et Armel, alors ton programme cette semaine, dans les semaines à venir, qu'est-ce que tu vas faire? Par exemple, cette semaine-là, on est la semaine après le week-end de l'Ascension, quel est le programme au Team Banque Populaire?
Ah, le Team Banque Populaire, aujourd'hui et demain, on remet en route un peu le bateau par rapport à la job list qu'on a établie la semaine dernière. Donc on a nos voiles qui sont reparties en voilerie chez Norse à Vannes pour des petits ajustements, parce que c'était des nouvelles voiles neuves, donc il fallait un petit peu retoucher tout ça. Donc elles reviennent demain, on va les remettre en place, on va avancer sur la job list qui est toujours assez conséquente en ce début de bateau neuf. Et puis on va naviguer donc jeudi, vendredi de nouveau avec l'équipe, avec Kevin, avec voilà, on sera encore assez nombreux à bord. En général, on navigue à 10 en ce moment à bord du bateau. La semaine prochaine, on part à Arcachon pour une première opération avec le sponsor, donc mercredi, et ce sera, on en profitera pour faire notre première nav de 24 heures, donc passer une première nuit en mer, d'aller un peu plus dans le large, dans le golfe de Gascogne, voilà, essayer de faire un peu plus de milles. Et puis on reviendra la semaine suivante et se préparer pour partir en Méditerranée vers le 15 juin, donc ça va venir vite. Là, on part quasiment pour un mois, un peu plus d'un mois de navigation à travers différentes escales. Et puis surtout, l'idée, c'est que là, on va faire aller jusqu'en Méditerranée, ça va nous prendre quand même quelques jours, hein, 5-6 jours, peut-être plus si la météo n'est pas au rendez-vous. Et puis derrière, on essaiera de revenir sur un grand tour avec peut-être un peu plus de rallonge dans l'Atlantique pour aller se tester un peu au large, dans des conditions un peu plus ventées ou variées. Peut-être 10, 12 jours de navigation, voilà, essayer de simuler un peu un temps de transat, ouais. Jacques Vabre, avec peut-être sûrement même une partie en ce qu'on appelle en faux double, où on sera avec Kevin à manœuvrer exclusivement sur le bateau, et puis on aura 2-3 personnes à bord de l'équipe, mais qui n'auront pas le droit de toucher au bateau, juste là pour la sécurité ou pour observer et continuer à apprendre ce nouveau bateau, Banque Populaire 11.
En deux mots, pourquoi Kevin ? Kevin, c'était un pote à toi ? Pourquoi le choix de Kevin ?
C'était déjà quelqu'un que j'apprécie parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble ici à Banque Populaire. Et il a participé à la construction du bateau sur lequel on a gagné Vendée Globe. Il est derrière le Banque Populaire 9. Il a aussi été dans le design team de ce nouveau trimaran. Donc il connaît le bateau très bien. Donc ça, c'était important d'avoir quelqu'un qui avait à la fois cette double casquette, un grand technicien, une connaissance du bateau dans tous ses points forts et dans tous ses éléments techniques. Et puis, c'est un excellent marin parce que c'est un équipier très recherché. Il a navigué sur différents bateaux. Il a fait pas mal de multicoques et il a gagné la Jacques Vabre déjà en multi-50. Donc il connaît bien le multicoque et puis c'est quelqu'un qui connaît bien l'équipe Banque Populaire. Donc c'était le choix le plus évident quand on a fait un peu la shortlist avec Ronan Lucas. Il fallait qu'il soit disponible. C'est vrai que son aventure un peu douloureuse, malheureuse de cet hiver sur le Vendée Globe l'a fait un petit peu changer son programme de cette année. Et donc il était disponible pour la Jacques Vabre et quand je l'ai contacté, il a répondu tout de suite présent. Donc on est très heureux d'être avec qu'il soit avec nous et lui aussi, je crois, il est très content et il apprécie le bateau. Et donc on va tout faire pour faire une belle transat. Et il sait aussi que mon objectif... c'est la route du Rhum, on en a parlé tout à l'heure, et lui aussi il aura un nouveau bateau pour la route du Rhum, donc on s'est déjà donné rendez-vous l'année prochaine à Saint-Malo, mais déjà d'ici là, on aura une belle course à faire qui va nous amener jusqu'en Martinique. On est très heureux d'avoir ce parcours, et puis on va surtout se confronter à nos camarades, on n'a pas eu encore l'occasion de le faire. Bonjour.
Alors, sur le pont, il y a plein d'enfants qui viennent saluer Armel, c'est très sympa.
J'arrive.
2 minutes.
Et puis, c'est chouette, il y a les écoles qui viennent visiter un petit peu les pontons, les bateaux, c'est chouette, il y a du...
Ouais, c'est sympa.
Ça fait sympa de retrouver du public.
Donc
on est très heureux d'aller dans ce projet avec Kevin. Ouais.
Bon, juste un petit mot un petit peu plus intime, tu as 2 enfants, Armel. Comment on gère sa vie de famille quand on est skipper au long cours comme ça ?
Il faut s'organiser, on va dire.
Ils ont quel âge, tes enfants ?
Mes enfants, ils ont 10 et 14 ans. Donc, mon fils Edgar a 10 ans, ma fille Louise a 14. On s'organise, voilà. On planifie un peu tout ça, les programmes qui peuvent changer aussi facilement.
Ouais.
Mais ça se passe bien, ils sont contents. Ils étaient là à la mise à l'eau, ils ont déjà vu le bateau. Peut-être cette année, j'essaierai de les faire naviguer pour une fois, bien. Parce qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de naviguer sur le précédent bateau. Pour qu'ils se rendent compte un peu aussi de la machine sur laquelle je vais naviguer. C'est vrai qu'ils avaient été aussi secoués par ce qui s'était passé sur la route du Rhum. Donc c'est important aussi d'expliquer un peu pourquoi on était reparti sur un nouveau bateau, pourquoi on repartait sur cette catégorie et pourquoi moi j'avais envie d'y retourner et qu'ils comprennent aussi le bateau, comment aussi en sécurité il a évolué, comment qui sera encore plus voilà, peut-être performant de ce côté-là. Et donc c'est bien de que tout ça, ça s'emboîte bien.
Expliquer les choses, c'est vachement important, c'est pour important, les enfants. Ouais. Et dernière petite question, quel chemin parcouru depuis 1999? Tu t'attendais à ça? Est-ce que quand tu étais petit, tu rêvais de ça ou tu te regardes en arrière et tu te dis, mais mon la vache, quoi, qu'est-ce que j'ai fait comme truc?
Quand j'étais petit, non, je rêvais pas forcément de ça. Moi, je faisais beaucoup de voile déjà. Je faisais de l'optimisme, des rivers. J'étais passionné par la compétition, mais à mon niveau et sur ces petits bateaux, c'était déjà très, très, très important. J'étais loin de gagner les courses et toutes les courses. J'étais pas forcément dans les meilleurs à ce moment-là. Mais j'étais admiratif de ces grands marins de l'époque qui prenaient le départ de la Route du Rhum, qui ont pris le départ du premier Vendée Globe. Je ne me voyais pas être à leur place, mais je vivais à travers leurs aventures, leurs récits. Et c'est finalement, au fur et à mesure de ma carrière, en grandissant, que je me suis rendu compte que j'avais peut-être envie de faire du solitaire. Et puis après, quand j'ai commencé à faire du solitaire, j'avais envie d'aller participer à la solitaire du Figaro. Et puis c'est en regardant aussi les autres, mon grand frère, mes copains, Nicolas, Jérémy, Vincent et Seb Joss, qui, quand ils ont fait leur premier Vendée Globe en 2004. À l'époque, à Port-la-Forêt, c'était le Vendée Globe, c'était un truc complètement fou. Et de voir comme ça des jeunes qui y allaient, on s'est dit pourquoi eux et pourquoi pas moi, quoi. Ouais. Donc ça a attiré de plus en plus de marins dont j'ai fait partie. Et puis après, il y a eu des succès, il y a eu aussi des moments de doute, des moments difficiles. Mais je suis très heureux aujourd'hui de ce que j'ai pu faire en 20 ans dans la voile, avec ces belles victoires. La dernière sur la solitaire, il y a quelques mois, j'étais très, très heureux de retrouver aussi le goût de la victoire, après ce que j'avais vécu en 2018. Et maintenant, il y a un objectif avec ce bateau. Et j'ai envie vraiment de faire les choses bien, dans le bon sens. Avec cette route du Rhum qui a été très douloureuse pour moi en 2018, mais aussi en 2014, j'avais dû déclarer forfait, je m'étais blessé à la main. Donc j'ai un rendez-vous important l'année prochaine.
En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, Armel. Merci. Un grand merci pour cette visite de Banque Populaire 11, et puis à très bientôt et bien sur Course Large. Merci beaucoup, Armel Lecléache, merci.
Merci.
Vous écoutez Les Voix du Large, un podcast proposé par le magazine Course au Large, magazine papier diffusé en kiosque et par abonnement, ainsi qu'en version digitale. Suivez-nous également sur notre site internet courseaularge.com. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre application préférée.